Taboubil, c'est la compagnie minière qui fait les lois et dicte les règles de vie des mineurs.
Ici, avant que la mine arrive, les gens dépendaient de leur village, de leur culture, de ce qu'ils faisaient pousser, alors que maintenant, ils dépendaient exclusivement de l'argent.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 2 au 27 mars aux ateliers Berthier, Ma chambre froide, de et mise en scène par Joël Pommerat, artiste associé de l'Odéon. Elle avait une théorie. Elle disait, dans la vie, les choses ne sont pas figées. Une situation qui ne convient pas, on peut toujours la transformer. Retrouvez Ma chambre froide dans les émissions de France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 15h, passé de 4 minutes, vous écoutez France Inter, et c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Moi, ce qui m'amuse, ce sont les ambassadeurs libyens qui démissionnent maintenant. moi, vous savez, Kadhafi, j'ai jamais vraiment aimé, hein. Faut pas croire, hein. Bon, j'ai accepté la charge d'ambassadeur pour essayer d'arrondir les angles avec l'étranger, mais franchement, je l'aimais pas beaucoup, hein, ces gars-là. Vous vous rendez compte, ils tirent sur le peuple. C'est dégueulasse. Ouais, je suis bouleversé. Et alors, c'est ça, moi, qui me fait chier, vous voyez. C'est que je pense à tous les gens qui sont morts, déjà, en Tunisie, et puis en Égypte, et puis maintenant en Libye, encore davantage, je crois. Et puis, c'est eux qui sont courageux, quoi. Eux qui affrontent directement les dictateurs. Et puis, quand ils auront renversé les régimes, que la place sera nette, les investisseurs qui attendent patiemment dans leur confort douillet débarqueront dans ces pays-là pour installer la démocratie, c'est-à-dire le libre-échange, quoi. Mais ça, moi, ça me choque.
Bonjour à tous. J'ai entendu l'autre jour sur France Inter que Monsieur Shimon Peres était indigné par les bombardements de Kadhafi sur la population civile libyenne. Alors j'aimerais savoir si M. Peres était tout autant indigné en 2008-2009, quand l'armée israélienne a bombardé pendant 3 semaines la population civile palestinienne de Gaza. C'était Georges de Cesson.
Salut Daniel. Alors j'ai écouté ce matin ce monsieur, ce professeur d'université, je crois, M. Salafey, qui était invité à France Inter entre 8h20 et 9h. C'était formidable. Il faisait une analyse sur ce qui se passe en Libye, en Égypte, en Tunisie. Eh ben, écoute, ça change, hein. Ça change de tous ces hommes politiques médiocres. J'aurais passé toute la matinée à l'écouter. Tu peux pas l'inviter dans une émission pour continuer un peu, une petite suggestion comme ça, modeste. C'était Chantal de Paris.
Oui, bonjour Daniel, Olivier, là, de Seine-Maritime. Il est 9h43 et j'écoute France Inter. J'entends un débat autour du bouquin de Stéphane Hessel, Indignez-vous, par 5 ou 6 journalistes, et je suis assez effaré d'entendre ce que j'entends, à savoir 2 ou 3 journalistes, dont un certain Pierre Jouve, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et d'ailleurs je m'en portais pas plus mal jusqu'à maintenant, qui se permettent de dépecer à la fois Stéphane Hessel et son bouquin. Je dirais que c'est un phénomène assez récurrent et un réflexe assez automatique dans le PAF, à savoir... Quand on a soi-même un parcours anonyme, une autorité assez insignifiante, ben je dirais que ça, le vieux proverbe qui dit que le moustique ne se met à exister que quand il pique le bœuf, je crois qu'on en a une illustration là. Enfin, Jouve, si j'ai bien compris, ben on a affaire à un bon pitbull du sionisme, hein, donc de toute façon, Hessel est à brûler avec tous ses bouquins. Donc j'arrive à Rouen justement, je pense que la place du vieux marché va être disponible si jamais on veut refaire le coup de Jeanne d'Arc à Stéphane Hessel, quoi. Voilà, enfin, je suis complètement ébahi. À bientôt. Au revoir.
Bonjour, chers amis de Là-bas si j'y suis. Je suis Isabelle de Nancy. Je voudrais jeter un petit caillou dans l'océan d'absurdité navrant dans lequel se noie, et nous avec, le gouvernement qui nous prive arbitrairement de l'année culturelle du Mexique, laissant bouche bée tous ceux qui ont travaillé du côté de l'autre, l'Atlantique, et nous font désormais passer, à l'insu de notre plein gré, du côté des gringos. Hijo de puta cabron.
Salut Mermet. Bien ton émission sur le gaz de schiste. Merci 1000 fois, tu nous as entendus. Mais chers auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez encore signer les pétitions sur l'internet. Merci d'avance, merci pour tout et venez nombreux à la manifestation samedi à Villeneuve-de-Vergue.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je suis originaire de Madagascar. Et bientôt, Total va exploiter un gisement de schiste bitumineux dans le sud-ouest de Madagascar à raison de 180 000, je dis bien, 180 000 barils par jour. On estime à 16 milliards de barils l'exploitation. Imaginez la destruction de la faune et de la flore, de l'écologie. En effet, un journaliste canadien, M. MacDonald Steinberg, était passé voir cet endroit et il a comparé ça à ce qui se passe aussi au Canada. Au plaisir, au revoir.
Bonjour Daniel, au sujet des gaz de schiste, l'un des arguments en fait des pays qui veulent exploiter le gaz de schiste, c'est l'indépendance énergétique. Mais en fait, le gaz, tant qu'il est dans nos sous-sols, il appartient au pays, mais à partir du moment où il est exploré et exploité, il appartient non plus au pays, mais à l'exploitant. Et là, en l'occurrence, l'exploitant, c'est une société américaine. Donc l'indépendance énergétique, pour moi, cet argument, il fait pas mouche, quoi. Parce qu'effectivement, quand ils l'utilisent, quand ils vont l'explorer, le sortir, ce gaz, ils vont peut-être le vendre à la France, hein, tant qu'on se tient à carreau, tant que tout se passe bien. Mais s'ils veulent nous mettre la pression, ils pourront nous mettre la pression. Je voulais dire aussi, par rapport au code minier, en fait, la France se réfère au code minier de 1956. Il n'a pas été changé depuis, mais il a été changé le 30 janvier 2011, comme par hasard. Et il y a un chapitre sur les gaz de schiste. Donc une des informations qu'ils ont changé, c'est que sur les gaz de schiste, toutes les informations seront confidentielles pendant au moins 10 ou 20 ans. Pour l'instant, les infos ne sont pas encore bien précises là-dessus. Et au bout de 10 ou 20 ans, on pourra demander une étude d'impact. Donc c'est bien sympa ça, mais au bout de 10 ou 20 ans, quand ils auront tout bousillé, bon, il n'y aura plus besoin d'études d'impact pour se rendre compte que tout est bousillé, quoi. Il fallait créer un texte sur mesure, hein, pour faire passer cette histoire de gaz de schiste, et je trouve ça absolument scandaleux. Donc voilà, je te remercie pour ton émission, salut.
Eh bien, il y en a des messages, hein, sur ce thème de gaz de schiste. Le reportage hier d'Inès Lérault vous a passionné et vous concerne, surtout si vous habitez autour de Villeneuve-de-Berg. Il y aura une grande manif demain, No Gaz à Rennes, à Villeneuve-de-Berg à 14h, au rond-point des Pommiers. Je l'ai annoncé hier, je vous en ai fait part hier, et il y aura du monde. Imaginez la scène suivante. Vous tournez le robinet de l'eau, l'eau coule dans l'évier, vous allumez votre briquet et l'eau s'embrase. Et oui, il y a du gaz dans l'eau. Et cette image, extraite d'un film qui s'appelle Gazland, a glacé tout le monde, a pétrifié tout le monde, pas seulement aux États-Unis, pas seulement au Canada, mais en France, tout récemment, soudain, on a découvert l'opération gaz de schiste, c'est-à-dire comment le gouvernement, à l'époque représenté par M. Borloo, avait accordé à un certain nombre de grandes multinationales des permis d'explorer pour extraire ce gaz de schiste. Alors hier, c'est vrai, j'ai insuffisamment indiqué les lieux de ces permis d'exploration, mais il y en a, c'est pas seulement dans le sud-est de la France, mais aussi bien dans le nord, à Valenciennes, en Lorraine, en Champagne, un peu partout. Et il y a aussi des permis accordés pour l'exploration du pétrole de schiste. Il y a le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et le pétrole de schiste, c'est la région parisienne. Surprise, étonnement, qu'est-ce que c'est que ce gaz de schiste? On ne l'avait jamais entendu tellement parler. Enfin, je parle du grand public, je ne parle pas des spécialistes bien informés. C'est une grande surprise. On a tout de suite hurlé à l'omerta gouvernementale. Il se trouve que ça doit ressembler assez bien à ça. De quoi s'agit-il? Quel intérêt? Quels avantages? Quels inconvénients? On se mobilise. On s'est tellement mobilisé que le gouvernement a fait... Alors, non pas marche arrière, mais on a suspendu, voilà. On a suspendu ces autorisations. Enfin, voilà, on n'a pas tellement confiance dans cette suspension. Beaucoup considèrent qu'il y a là une opération, une façon de repousser en attendant que les esprits se calment et on reprendra le grand projet, parce que c'est un immense projet qui regarde l'énergie et c'est énorme, cette ressource est énorme, pas seulement en France, Canada, États-Unis, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, ce gaz de schiste qu'on extrait à de très grandes profondeurs, 2 à 3000 mètres, avec des techniques qu'on a évoqué hier, de l'eau à très très forte pression, eh bien c'est une ressource potentielle pour des continents. La Chine, l'Inde pourraient explorer et puis exploiter cette ressource. Alors il s'agit évidemment d'une solution qui est tout à fait discutable et discutée par les spécialistes de l'énergie, que nous devrions tous être, au moins pour la raison que voici. En 6 heures, les déserts dans le monde reçoivent plus d'énergie que l'humanité entière n'en consomme en une année. Je répète, en 6 heures, les déserts dans le monde reçoivent plus d'énergie que l'humanité entière n'en consomme en une année. Voilà, c'est-à-dire que si on s'équipait en panneaux solaires, en éoliennes, en barrages dans les montagnes, eh bien on pourrait se passer de cette hypothèse et de cette voie, c'est plus qu'une hypothèse, du gaz de schiste. Vous avez compris que ce dont il va être question jusqu'à 16 heures, mais c'est la grande, grande question des politiques énergétiques entre les grands intérêts des grandes compagnies, l'omerta des gouvernements et des spécialistes, et puis les citoyens que nous sommes plus ou moins révoltés. C'est jusqu'à 16 heures sur France Inter. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous. Le 14 mai prochain, il y aura un rassemblement sur le plateau des Glières, comme tous les ans. Il y a de grandes chances que Sarkozy vienne y faire peut-être un dernier tour avant l'élection de 2012. On en parlera, Conseil national de la résistance, de Stéphane Hessel et de ce déplacement qui s'organise. On en parlera dans le cadre du repère qui aura lieu samedi à 15h30 aux Estérés du Lac chez Hervé et Marie-France. On se retrouvera tranquille pour parler de ça et de l'actualité du canton. Ciao, Yves. Portez-vous bien et indignez-vous.
Bonjour, je vous appelle pour vous annoncer que le café repère de Rochefort-sur-Omer aura lieu ce soir au Bal des Oiseaux, en face de la Poste, à 18h30. Nous y parlerons de la dette et de comment se sortir de ce pétrin. À ce soir, pour tous ceux qui viendront, autour d'une tasse ou d'un verre. Bonne journée.
Oui, bon, je m'appelle Martine Landry, je suis membre d'Amnesty International. Je suis scandalisée par la prestation de M. Estrosi à l'émission de Stéphane Bern. Monsieur Estrosi joue les grands démocrates, presque les défenseurs des droits de l'homme. Il oublie que dans sa ville de Nice, on traite les demandeurs d'asile pourtant protégés par la Convention de Genève d'une façon tout à fait indigne. Voilà, merci.
Mauvaise pente. À Notre-Dame de la Garde, soudain me vint une érection. Je priais Dieu que mon hallebarde jusqu'au soir tienne la position. Hélas, arrivé au vieux port, est-ce un effet de la descente, où n'avais-je prié assez fort, mon arme avait suivi la pente. C'était Georges-Philippe T, poète local en Bretagne.
Moi je l'ai appris, mais j'ai commencé à avoir un article sur le journal, tout petit article, 4 ou 5 lignes, disant que du gaz, il y avait peut-être du gaz dans le coin, que des compagnies américaine allait arriver et exporter du gaz.
Quand Total nous dit mais non, mais il n'y a pas de souci, c'est un épiphénomène, mais nous on fera mieux que les Américains, mais ce qu'il faut voir c'est que c'est une technologie américaine.
Maintenant que la décision est prise, la concertation peut commencer. On est à peu près dans cette situation-là. On a décidé de forer partout, donc maintenant on peut discuter. Et ben, c'est pas comme ça que ça marche.
Les Américains viennent de confier à l'IPIE une étude d'impact qui doit durer plus de 2 ans.
sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste. Et donc c'est au moment où les États-Unis se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée que nous nous lançons encore perdus dans cette affaire.
Il faut 20 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation.
6 piscines olympiques.
6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation hydraulique. Et cette eau, elle contient donc 1% de produits chimiques, ce qui fait au final, en gros, 200 tonnes de produits chimiques que l'on laisse dans le sous-sol.
Une liste du nombre de produits chimiques qui sont utilisés par l'industrie des gaz de schiste. C'est extravagant, on arrive à plus de 900 produits chimiques différents.
Et c'est ce que nous craignons le plus. C'est la pollution de l'eau, des nappes souterraines qui alimentent nos robinets.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Inès Léraud. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin?
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, José Bouvet, c'est quoi le gaz de schiste?
Alors, le gaz de schiste, c'est un gaz qui est dit non conventionnel et qui, au lieu d'être dans des poches, comme on trouve naturellement le gaz ou le pétrole, il suffit d'aller chercher en mettant un tuyau et de forer ses poches, c'est un gaz qui est prisonnier dans la roche. Donc dans une roche de schiste, à très grande profondeur, entre 2000 et 4000 mètres de profondeur. Alors, comme c'est prisonnier dans la roche, il ne suffit pas de faire un trou. Il faut arriver à faire sortir les fragments de gaz ou d'huile de schiste de cette roche. D'où l'utilisation d'une technique particulière et unique. Il n'y a qu'une seule technique pour extraire. C'est donc de faire un trou vertical entre 2000 et 4000 mètres de profondeur, puis ensuite de partir à l'horizontale entre 500 mètres et 1 km, d'envoyer de l'eau à très haute pression. En gros, il faut entre 15 millions et 20 millions de litres d'eau. Mélangé à des produits chimiques, on compte à peu près 500 produits chimiques différents dans ce mélange, plus des billes pour maintenir l'ouverture de la roche. Donc c'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique.
Mais qui n'est pas sans conséquence ? Qui n'est pas sans conséquence? Cette eau injectée à très haute pression, 15 000 mètres cubes d'eau additionnée de produits chimiques, ça n'est pas sans conséquence. C'est une eau toxique dont on ne récupère que 50% à 90% et dont le reste s'infiltre dans le réseau hydrologique. On ne sait pas très bien où ça va, tout ça. D'où cette image extrêmement frappante que j'évoquais en commençant de ce gars qui ouvre son robinet et qui prend feu. Son robinet d'eau prend feu, il y a du gaz dans l'eau. Alors on dit oui, mais d'accord, mais bien sûr, mais ça se passe en Pennsylvanie. Oui, mais bien sûr. Mais nous, on est en France quand même, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus malin et on va prendre un tas de précautions et on a les meilleurs ingénieurs, les plus gentils multinationales, on les connaît, on va faire très attention, vous vous rendez compte, mais enfin, et puis il y a des lois et on sait les faire observer, etc. Alors, c'est curieux, ça n'a pas rassuré des gens, mais bon, pas très nombreux, hein, parce que ces prospections, c'est dans des régions où il n'y a presque pas d'habitants. C'est des terres sans peuple, ça, l'Ardèche, la Drôme. Vous vous y baladez de temps en temps. En ce moment, là, il n'y a personne. Hein. Vous pouvez rouler des journées entières, il n'y a personne. Donc on peut tout à fait décemment installer des dériques à travers tout le paysage. Personne ne les remarquera, les dériques. Et puis faire rouler des camions, oui, il faut quand même apporter de l'eau massivement. On le voit aussi dans ce film Gazland, d'énormes tankers qui passent à travers le paysage comme ça pour apporter de l'eau. Et puis, il y a les brûleurs, il y a les pipelines. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut de l'énergie, on veut pas de l'énergie. On veut de l'autonomie, on veut de la souveraineté en matière d'énergie. Et le gaz de schiste constitue une alternative tout à fait formidable. Sauf que ben, dans ces déserts français, il y a quand même quelques habitants qui ont pour habitude de pas trop se laisser faire. Il y a quand même quelques élus qui se sont mobilisés et ça a été levé de boucliers. De mémoire de Beauvais, de mémoire de Nicolino, Fabrice Nicolino, qu'on va retrouver, c'est-à-dire des vieux lutteurs de l'écologie politique, disons, ils n'avaient jamais vu, ils n'ont jamais vu une mobilisation pareille, qui voit les jambes de gauche, les élus de droite, du centre, etc., faire cœur tous ensemble contre ce projet d'exploitation des gaz de schiste, non seulement dans leur jardin, mais dans le jardin aussi des voisins. Je l'ai dit, le gouvernement a reculé. Est-ce ou non une manœuvre ? C'est ce que nous allons apprendre un peu plus précisément d'ici à 16h dans la basse. J'y suis. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin ?
Nous dit le chef d'État au dernier sommet sur ces sujets. Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance. Me montrez pas du doigt ce plan industriel. Je m'oublie déjà en réglementation. Beaucoup de pays sont moins tatillons.
Réduire les gaz à effet de serre, je vous jure d'y réfléchir. Mais mon résultat ne doit pas en pâtir.
Je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser ce monde et sans scrupules. La concurrence est dure.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète.
Qui a fait un trou dans le sol?
Je suis pas décideur, appel à citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment, mais faudrait encore en avoir les moyens.
J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture, et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun.
On nous fait préférer les produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants.
Guillaume Vermorel est enseignant. C'est lui qui organise la fronde depuis que le permis d'explorer du gaz sur la commune a été délivré.
France 3.
1700 personnes ont déjà signé sa pétition.
18 février 2011.
Chaque semaine, des réunions publiques comme celle-ci sont organisées en Ardèche. Les salles sont pleines à craquer. Il y a 50 ans, des forages pétroliers avaient eu lieu à Villeneuve-de-Berg.
Et on entend que dessous, on a le trou qui descend sur 2800 mètres de profondeur.
L'or noir n'a jamais jailli de terre, mais les industriels avaient localisé du gaz de schiste. À présent, ils savent l'extraire. L'Europe est devenue la nouvelle cible pour le gaz de schiste. Les industriels américains placent leurs pions. Les Français, GDF Suez et Total s'y mettent aussi.
Voilà, EDF, Suez, Total s'y mettent aussi et on le découvre, on a découvert ça brusquement, y compris ceux dont le boulot consiste à observer et à commenter et analyser ce qui se passe en matière d'écologie dans notre pays. Fabrice Nicolino, par exemple, qui nous a expliqué hier l'histoire de ce gaz de schiste aux États-Unis, au Canada, et comment est-ce arrivé en France? En France, on a l'impression que c'est surgi soudain, il y a 2-3 mois.
Plus que ça. Mais c'est très confus. C'est une histoire qui est confuse parce qu'elle est secrète.
Comment c'est arrivé ?
Mais c'est une histoire secrète. Disons-le franchement, c'est important que les auditeurs l'entendent. C'est une histoire qui a été rondement menée, mais en secret, dans nos dos, purement et simplement dans nos dos. Et c'est pas...
Ça fait un peu complot, ça.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une habitude. C'est pas un complot, c'est une habitude.
Alors comment c'est arrivé ?
D'abord, on ne sait pas combien il y a eu de permis d'exploration accordés. Première chose, moi, je le demande officiellement.
Permis d'exploration accordé par le ministère.
Par le ministère de l'écologie, qui à l'époque était le ministère aussi de l'énergie. Parce que depuis le remaniement de novembre 2010, l'énergie a été opportunément retirée au ministère de l'écologie et remis entre les mains d'Éric Besson, notre cher Éric Besson, qui est ministre de l'Industrie et qui est aussi ministre de l'Énergie. Le dossier, le lourd dossier de l'énergie, que ce soit le nucléaire ou que ce soit les gaz de schiste, c'est entre les mains d'Éric Besson. Mais les permis ont commencé à être accordés, d'après ce que nous savons aujourd'hui, en 2006. Sauf que personne ne le savait. Personne ne le savait à cette époque-là. Personne n'en avait rien dit. Il y a eu au moins un permis à Foix, dans les Pyrénées, qui a été accordé, avec dans deux villages, l'un en Haute-Garonne, l'autre en Ariège. Il y a eu une fracturation hydraulique. Ça, personne n'en a parlé.
Vous n'êtes pas très vigilants, les écolos, là, hein ?
C'est clair. Disons-le franchement. Oui. Même, je vais vous dire toute la vérité. Je veux dire, moi, je suis tombé par hasard. Pas tout à fait, mais presque, on va dire, sur les permis signés par Jean-Louis Borloo le 1er mars 2010, les permis qui ont mis le feu aux poudres en France.
Donc, vous dites bien permis d'exploration.
D'exploration.
Pas d'exploitation.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de permis d'exploitation. Il y a exploration. C'est-à-dire que Borloo, qui était à l'époque donc, ministre de l'écologie et de l'énergie, le 1er mars 2010, il signe sur un coin de table, il signe un permis que d'autres ont rédigé. Je vais vous dire ce qu'il en est après. Donc Jean-Louis Borloo engage sa signature, engage sa réputation, Dieu sait, et il donne des permis d'exploration sur des surfaces gigantesques en France, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc on est dans une logique complètement siphonnée où un mec signe un permis d'exploration à des compagnies, je vais vous dire lesquelles, sur des surfaces géantes en France, sans informer personne. C'est-à-dire, personne n'est informé, aucun maire, aucun journal. Tout ça, ça passe au journal officiel que personne ne lit, parce que personne ne peut le lire. Le journal officiel, c'est une lecture qui est impossible. Il faudrait y passer sa vie. Donc, le journal officiel, je crois que c'est dans le journal officiel du 30 mars, je crois me souvenir, mais peu importe, la signature date du 1er mars 2010, et il donne des permis d'exploration. À qui ? Et où ?
Voilà.
Bah, il donne des permis d'exploration à des sociétés américaines qui sont inconnues au bataillon. Mais inconnues au bataillon. Par exemple, je vais vous donner le nom d'une société dont personne n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Schubbar, du nom de son propriétaire, qui est en fait un Suisse. Très bien. Mais figurez-vous que Schubbar, c'est une société qui a été créée en 2007. C'est absolument invraisemblable. C'est une petite société. Et malgré cela, elle arrive en France et on lui file un permis d'exploration sur des territoires gigantesques avec les risques que je vous ai décrits tout à l'heure. C'est absolument invraisemblable au point que je me dis, mais ça c'est peut-être de la paranoïa de ma part, au point que je me demande si Schubbar est seulement Schubbar ou si Schubbar n'est pas aussi un faux-né d'une transnationale quelconque. Je me pose la question. Je n'ai pas la réponse.
En tout cas, il y a Total.
Bien sûr. Alors, à l'arrivée, disons, on a essayé d'associer in fine une société américaine et une société bien de chez nous, c'est-à-dire soit Total, soit GDF Suez.
Jean-Jacques Mosconi, vous êtes le directeur stratégie de Total. Nous sommes ici à Houston, à la conférence CERAWeek.
Lefigaro.fr.
Et Total a passé un accord récemment avec la compagnie américaine Chesapeake.
1er avril 2010.
Pour exploiter ce qu'on appelle en anglais le shale gas, en français plutôt le gaz de schiste, un type de gaz très prometteur. La production a beaucoup augmenté aux États-Unis. Qu'est-ce que vient faire Total avec cette compagnie Chesapeake ?
Alors c'est vrai que c'est un nouveau thème très prometteur où les États-Unis, depuis 3 ans, ont fait beaucoup de progrès.
Jean-Jacques Mosconi.
L'intérêt pour nous est d'y entrer en partenariat avec quelqu'un qui connaît bien le métier.
Directeur stratégie de Total.
Parce que c'est un business model qui est assez différent de celui que les majors pétrolières dans Total connaissent.
En Europe, on connaît déjà les champs de gaz de schiste.
On a quelques idées. Mais c'est vrai que l'idée aussi de ce rapprochement avec Chesapeake, c'est de tirer profit de cette expérience assez unique aux États-Unis aujourd'hui pour aller plus vite dans le développement de ces gaz de schiste. On a pris quelques permis en France, au Danemark, en Allemagne et en Pologne. On pense qu'il y a un potentiel prometteur pour pouvoir tirer le plus vite parti de ce que nous apprendrons aux États-Unis et en particulier au Texas.
Corinne Lepage. Nous nous sommes rendus compte que Jean-Louis Borloo avait, de manière complètement subreptice, caché, autorisé en février-mars des permis de recherche exclusifs sur des territoires extrêmement étendus dans plusieurs parties de la France.
Et ça concerne
sans aucun débat public, sans que personne ne le sache, sans aucune publicité et sans que les populations, les collectivités locales en soient informées.
Alors, bien sûr, Nicolino dit « Oh bah oui, mais ça c'est C'est la parano écolo qui voit des entourloupes et partout des complots. Voici le point de vue donc de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, fondatrice et présidente du parti écologique Cap 21.
Vous songez par exemple que ce qui est appelé permis de Montélimar, vous voyez à peu près au Montélimar la ville du Nougat, hein, c'est un permis sur plus de 5000 km² qui descend jusqu'à Nîmes. Comment voulez-vous que les gens de Nîmes puissent imaginer un quart de seconde qu'ils sont concernés par un permis à Montélimar? C'est impossible. Donc les populations ne savent pas. Et même si les populations autour du lieu-dit ou de la ville qui porte le nom du permis peuvent être informées, tous les autres ne le savent absolument pas. Donc là encore, beaucoup de Français découvrent qu'ils sont dans les zones de permis de recherche.
On s'aperçoit que les gaz de schiste ont déjà été exploités aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on découvre ?
On découvre des paysages lunaires. C'est-à-dire que ce sont des paysages éventrés. On découvre que les conséquences en termes environnementaux apparaissent très lourdes, en termes d'utilisation de l'eau, en termes de pollution de l'eau, en termes de pollution de l'air, à telle enseigne qu'au moment où la France se lance à corps perdu dans cette affaire-là, les Américains viennent de confier à l'EPA. Il n'y a pas de ministère de l'Environnement aux États-Unis. L'EPA, c'est un peu le ministère de l'Environnement, si vous voulez. Donc l'EPA est chargé d'une étude d'impact qui doit durer plus de 2 ans sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Par ailleurs, il y a 2 États, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, qui ont demandé un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste tant ils se rendent compte des conséquences que cette exploitation peut avoir pour la vie des gens. Et donc c'est au moment où les États-Unis se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée que nous nous lançons encore perdus dans cette affaire.
Bon, Borloo a signé ses permis d'exploration en mars 2010, sans prévenir quiconque. Les élus,
rien.
Locaux, les
personne.
Responsables, personne.
Personne, absolument personne.
Et en fait, alors vous voyez une stratégie, une incompétence.
Alors, il faut savoir que derrière Borloo, il y a bien des gens. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ministre. C'est pas insulter personne que de rappeler cette évidence. Un ministre, il arrive à un moment X, il repart à un moment Y. Il arrive avec un staff de 15 personnes, son cabinet, hein, qui soigne son image publique, qui soigne ses interventions télévisées. Mais lui, il connaît rien au sujet. Borloo, il connaît strictement rien au problème d'écologie et d'énergie. C'est peut-être dur à entendre, mais je le dis et je le maintiens. Et donc, bien sûr, c'est pas lui qui a pensé qu'il fallait filer des permis d'exploration de gaz de schiste à qui que ce soit. Qui l'a fait ? C'est ça qui est intéressant. Sur le permis d'exploration de Nantes, qui est tout près du Larzac et qui a mis le feu aux poudres.
NANT, oui.
NANT, pas oui. Nantes, oui. Non, oui. NANT dans l'Aveyron. Eh bien, c'est le directeur de l'énergie qui a signé ce permis. Le directeur de l'énergie, c'est un monsieur Abadi, qui est ingénieur général des mines et qui a préparé ce travail pour Jean-Louis Borloo. Il a signé ce permis et par délégation de Jean-Louis Borloo. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, y a
c'est
une
votre cible, ça, les mines. Hein. Pour oui. Vous, il y a une mafia des mines.
Non, non,
pas
non,
mafia.
Non, non, non.
Il y a un
non,
corps, en
non,
tout
non.
cas.
Non, franchement, moi, je ne veux pas employer ce mot de mafia parce que ce n'est pas ça. En plus, ce n'est vraiment pas ce que je pense. Il faut savoir que le corps des mines, c'est un corps extraordinaire puisque c'est un corps qui est né avant la Révolution française. Avant la Révolution française. Il a plus que 2 siècles d'existence. C'est des grands ingénieurs d'État. Ce sont des gens souvent tout à fait remarquables dans leur domaine. Seulement, c'est un corps qui, avec les années et les siècles même, à mon avis, a complètement déraillé. Pour moi, c'est devenu un corps oligarchique, purement et simplement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se croient tout puissants, qui se croient beaucoup plus malins que n'importe qui, et évidemment beaucoup plus malins que les politiques, et qui ont survécu à toutes les guerres, à toutes les révolutions, à tous les changements de régime, depuis avant la Révolution française. Vous imaginez ça? Ils ont survécu à tous les régimes. C'est 10 fois plus, 10 fois mieux que Talleyrand. C'est-à-dire que c'est un corps d'une stabilité invraisemblable, et ces gens-là pensent pour nous, en notre nom, les questions de l'énergie dans un pays comme la France. Ils sont sûrs de les avoir mieux réglés que quiconque. C'est fascinant d'observer ça de
près. Le nucléaire, c'est eux.
Mais le pétrole également. Le premier président d'Elf et Rap en 1967, c'est Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat, qui est l'homme de la bombe atomique française, qui a été aussi ministre des armées du général de Gaulle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le sentiment qu'ils savent infiniment mieux que quiconque ce que nous devons faire en matière d'énergie.
Mais ils sont au service de la République ou au service des grandes compagnies ?
Moi, je ne dirais pas qu'ils sont au service des grandes compagnies. Je pense qu'ils ont une vision technicienne et non démocratique de ce que c'est que l'énergie. Et ils ont peur de la société. Et donc, ils ont toujours tout fait pour éviter qu'il y ait des débats sur l'énergie en France. En fait, ils ont réglé les questions entre eux et ils l'ont ensuite proposé, imposé aux politiques, et les politiques nous l'ont imposé à nous, les citoyens. Il n'y a pas eu de débat en France au moment de la création d'EDF pour des raisons assez évidentes, c'était l'après-guerre, tout baignait dans un enthousiasme fou, on se prosternait devant une compagnie nationale d'électricité, on croyait qu'on avait atteint le nirvana. Il n'y a pas eu de débat autour de l'industrie pétrolière, tout a été phagocyté par les mines. Guillaume était un mineur, était un ingénieur des mines de très haute importance. Bon, mais il y a un autre personnage qui est André Giraud, qui est lui aussi un ingénieur des mines, qui est l'homme du programme électronucléaire en France. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la création du programme électronucléaire en France dans les années 70, le corps des mines, par l'intermédiaire d'André Giraud, qui voulait faire, comme il le disait à l'époque, une Shell française, c'est-à-dire qu'il voulait faire une Shell de l'atome française, et il y est parvenu, hein, très grossièrement, avec Areva, on peut dire que grossièrement, son rêve s'est réalisé. Donc André Giraud, qui était mineur, a vendu l'idée que la France pouvait devenir une Arabie saoudite de l'énergie grâce au nucléaire. Et il n'y a pas eu de vrai débat public national dans les années 70 autour du programme électronucléaire. C'est passé, je veux dire, il y a eu des manifs, on le sait bien, il y a eu Malville, cette malheureuse, terrible manifestation au cours de laquelle Vital Michalon est mort, mais l'un dans l'autre, on a imposé en France un programme électronucléaire pensé par les ingénieurs des mines, sans vrai débat national. Et en fait, ils veulent recommencer car ils pensent que l'intérêt de la France, qui se confond avec le leur, c'est de lancer massivement l'extraction des gaz de schiste pour parvenir, sinon à l'indépendance, du moins à une relative autonomie énergétique de la France. Ils veulent nous priver à nouveau d'un grand débat public sur la question de l'énergie. Et moi, ça me paraît très grave du point de vue, évidemment, de la démocratie.
Yarı yürüsü olan set olmuş spagetti Yarı bori fosfatı ramon kianti Yarı zassi la mine dama paela Yarı zarjan bir aktif damon koka Anatan zan Tutto va bene Y a des fumées colorées dans le bleu du ciel Et l'eau du robinet qui sent les poubelles Dans le fleuve y a des poissons qui nagent à l'envers Et des mouettes gazées qui chantent en chœur En attendant Tout va bene Tout va bene En attendant Tout va bene Tout va bene En attendant
Des nouvelles révélations sur une histoire incroyable mais vraie.
Gasland, 2010.
Et c'est vrai, des flammes sortent des robinets d'une maison de Fort Lupton. C'est un phénomène étrange et inhabituel. L'eau est tellement polluée qu'elle s'enflamme.
Je suis terrifiée. Absolument terrifiée.
Amy Ellsworth was so scared. Amy Ellsworth a si peur qu'elle a fait tester son eau. Et il s'est avéré que son eau est contaminée par du gaz naturel.
Voilà, je suis dans l'Ardèche. Je viens d'arriver à Villeneuve-de-Berg, près de Montélimar. Je suis un peu en retard parce qu'il y avait beaucoup de brouillard sur la route. Je vais me rendre à une réunion, une conférence sur le gaz de schiste. Et dans ce petit village, il est tard, là, il est 9h. En fait, il y a apparemment tellement de monde qui vient à cette réunion que les derniers arrivés sont obligés de se garer très loin de la salle parce qu'il n'y a plus de place le long des routes. Tous les trottoirs de toutes les rues sont bondés par les voitures. La salle de réunion, c'est la salle des fêtes de Villeneuve-de-Berg. Et à l'intérieur, c'est noir de monde. J'ai réussi à me glisser à l'avant de la salle, près d'un haut-parleur. Je me retourne dans la salle et il y a une marée de visages. C'est impressionnant.
Faisons tout pour que ce projet ne puisse voir le jour. Motion, arrêté des maires, collectif citoyen, renseignement auprès de conseils juridiques. Tout doit être mis en œuvre, mais rien, rien ne remplacera la mobilisation citoyenne, comme ce soir.
Et comme demain, demain, grande manifestation, nos gaz à rame, dans cette petite ville, dans cette petite ville de Villeneuve de Berg. Voilà, c'est là que ça va se passer. Mais il y a eu des quantités de réunions comme celle-ci, où voilà, on a pris conscience, on a regardé ce film, Gazland, on a discuté du gaz de schiste, mais aussi des alternatives. Oui, mais alors, si on veut pas ça, alors qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et très vite, on débouche évidemment sur le politique, sur une réflexion politique fondamentale, à savoir qu'est-ce qu'on fait du profit par rapport aux questions d'environnement. On débouche très rapidement sur des questions fondamentales. Donc on continue avec la suite.
Merci monsieur le maire d'avoir retracé l'historique de ce projet qui nous est imposé. La parole est à vous, des micros circulent dans la salle.
L'alarme est déclenchée, la résistance collective s'organise, il faut aller jusqu'au bout, et donc les gaz de schiste ne passera pas. Non gazaram.
À droite, nous vous écoutons, monsieur.
J'ai pas tellement de questions à vous poser. J'ai simplement besoin de vous dire que j'ai peur. J'ai vu le film, ça me fait peur. J'ai entendu le monsieur là-bas qui me dit « En 2012, le Pentagone dit qu'on n'aura plus de pétrole. » Ça fait peur. Mais si nous, on est là pour avoir peur, on ne gagnera jamais. Mais moi, je suis ici pour dire que je ne veux pas une usine de gaz dans mon jardin. Je suis ici ce soir pour vous dire...
Merci.
Je suis ici ce soir pour vous dire que je ne veux pas qu'on viole notre paysage.
Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci à nos invités. Nous sommes plus de 1000.
Alors, soudain, la France profonde, on peut parler vraiment de France profonde, puisqu'on descend à 2000 mètres ou 2500 mètres, s'est réveillée et a dit non, est en train de dire non. Et ça, il y a, dans votre carrière de journaliste et d'écrivain sur l'écologie, Fabrice Nicolino, je suis sûr que c'est la première fois que vous voyez une telle levée unanime de boucliers.
C'est
extraordinaire. Il y a des gens de gauche, de droite, du centre, de tout ce qu'on voudra, qui se retrouvent tous ensemble contre ce projet.
Alors, vous avez raison, c'est fantastique. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un mouvement prendre feu et flamme avec autant de rapidité, avec autant d'unanimité, avec autant de vaillance, autant de force. Moi, je me suis lancé dans cette bagarre car je suis un acteur de cette bagarre, c'est vrai. J'ai prévenu des gens quand je suis tombé sur le permis de Nantes, notamment. J'ai commencé à agiter un peu le petit landerneau que je connais. Bon, et c'est parti très, très vite parce qu'une des zones concernées, c'était l'Arzac avec Beauvais. Et là, je reviens du sud où j'ai fait une série de meetings à Saint-Jean-du-Gard, à Montpellier, à Nantes même. Et en fait, il y a des salles complètement combles dans des bleds, qu'on pardonne l'expression, ça n'a rien d'injurieux, mais dans des villages, il y a souvent plus de gens que d'habitants dans le village. C'est-à-dire qu'on est en face d'une levée de fourche absolument sensationnelle. Les gens ne veulent pas entendre parler de gaz de schiste. Ils veulent pas qu'on touche à leur pays.
Fabrice, donc, levée de bouclier, unanimité.
Oui.
Nicolino, surpris par une telle unanimité, vous n'êtes pas le seul. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement recule?
Non. Ah. Non, il ne recule pas, ça c'est du pipeau, ça c'est pour amuser la galerie, ça marche, mais ça n'est pas vrai. Le gouvernement, Madame Kosciusko-Morizet a peur. Elle a compris instantanément qu'il se passait quelque chose. Il aurait fallu être sourd, totalement sourd, pour ne pas le saisir. Donc, Madame Kosciusko-Morizet, elle joue son image de ministre de l'écologie dans cette histoire. Elle ne peut pas dire oui à l'extraction de gaz, de schiste, parce que c'est la négation concrète de sa mission et c'est la fin du Grenelle de l'environnement qu'elle claironnerait brusquement et publiquement à l'antenne. Donc, elle est coincée. Elle est obligée de botter en touche et de trouver une parade à cette mobilisation extraordinaire dont on vient de parler. Donc, elle a décidé, elle a annoncé un moratoire. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, ça n'est pas contraignant, c'est juste une parole verbale, comme dirait l'autre. C'est un ministre qui dit, voilà, on arrête, on ne fait pas d'exploitation pour le moment, on va faire une mission d'expertise. Ça, c'est le grand jeu des politiques. Quand tout merde, quand tout se transforme en merdier géant, on lance lance une mission, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé de lancer une mission dont le rapport intermédiaire sera connu en mars et dont le rapport définitif devrait être connu fin mai. Sauf que cette mission d'expertise, à qui elle a été confiée? Elle a été confiée notamment au Conseil général de l'industrie, c'est-à-dire ceux-là même qui sont derrière cette aventure, ceux-là même qui ont intérêt à nous priver d'un débat sur l'énergie, ceux-là même qui ont vendu au pouvoir politique le fantasme d'une indépendance énergétique liée au gaz de schiste. Autrement dit, on demande à ceux-là qui ont proposé ce plan de juger sa valeur, de juger sa validité, de juger les dangers notamment écologiques de l'exploitation massive de gaz de schiste. Ça n'a rien de contraignant, ce n'est pas un moratoire, car en fait, si les industriels avaient voulu continuer leur petit travail, ils l'auraient fait. C'est volontairement, ils l'écrivent d'ailleurs en toutes lettres dans leurs documents internes, c'est volontairement que les industriels à qui on a donné des permis d'exploration ont arrêté pour l'instant jusqu'à la remise de ce rapport qui est attendu, je le répète, dans sa version définitive, fin mai. C'est volontairement qu'ils ont accepté de retarder leurs travaux. Et donc, on est dans cet entre-deux, dans un moment très, très, très délicat, notamment pour le pouvoir politique, qui ne peut pas accorder des permis d'exploitation, mais qui en même temps ne peut pas les refuser. Donc c'est ce qu'on appelle une impasse.
Alors une impasse, mais on a des élections présidentielles. Cette histoire va sans doute jouer un rôle.
Oui, je le crois. Franchement, je pense que ça va jouer un rôle même peut-être plus important que... Ben, je pense que peu de gens, peu de politiques en ont entendu parler. Ça leur passe au-dessus de la tête, ils s'en foutent un peu. Mais il y a déjà beaucoup de parlementaires qui s'intéressent à la chose. Bon, ce que je sais, et ça n'a rien à secret, c'est que beaucoup de gens s'agitent de manière à ce que dans le pacte politique qui sera forcément noué entre les socialistes et les écologistes, figure le renoncement, l'abrogation de ces permis d'exploration et le renoncement définitif de la France à l'exploitation des gaz de schiste. Ça va être dans la balance.
La ministre Public. De l'écologie et du développement durable.
La chaîne parlementaire.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député.
26 janvier 2011.
Les permis d'exploration de gaz de schiste suscitent des inquiétudes et des interrogations légitimes et grandissantes.
Nathalie Kosciusko-Morizet.
Je veux être très précise. D'abord, vous dire ceci. Il n'est pas question d'exploiter le gaz de schiste, comme cela se fait dans certains pays. Des techniques dangereuses pour l'environnement et destructrices y sont utilisées et il n'est pas question d'engager la France dans cette voie. Est-il possible d'exploiter le gaz de schiste autrement? Et non pour augmenter la consommation de gaz, mais par exemple pour se substituer à des importations, c'est l'objet de ces explorations. Et là, il faut être précis. Un permis d'exploration n'est pas un permis d'exploitation. Depuis 2004, 9 permis d'exploration ont été donnés sur les gaz non conventionnels, dont le gaz de schiste, 3 en mars 2010, aucun permis d'exploitation. Ceci était transparent. L'information était jusqu'à maintenant méconnue, mais elle était publique. La cartographie est présente sur le site du ministère des permis d'exploration actifs et des demandes qui existent. Ça n'est pas un secret. Toute ouverture de travaux nécessitera une enquête publique. Donc aucun travaux ne sont possibles sans enquête publique. Un moratoire n'est pas possible. Le code minier ne le permet pas. Mais vous pouvez compter sur ma vigilance pour que nous ne voyions pas en France le type de paysage désolé auquel une exploitation sans retenue et sans contrainte environnementale a conduit les États-Unis.
Depuis que le dossier est sorti, que la mobilisation a commencé, de l'Ardèche, la Drôme, l'Aveyron et partout,
José Bové.
Ça crée un tel émoi que la ministre de l'Environnement a été obligée, début février, d'essayer d'éteindre l'incendie. Et donc, elle a annoncé publiquement devant l'Assemblée nationale qu'elle mettait en place une mission d'évaluation avec les industriels sur l'exploitation, l'exploration plutôt du gaz de schiste et de la technique de la fracturation hydraulique. Ce qui nous inquiète, c'est que cette mission, elle est faite par le corps des mines, c'est-à-dire par les grands corps d'État, qui ont été ceux qui ont poussé les grands travaux et notamment l'extraction minière. Et cette mission se fait avec les compagnies, mais avec absolument aucun scientifique indépendant, avec aucune étude environnementale locale. On nous explique, ça viendra dans un deuxième temps si on trouve. Et c'est bien là le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se battre contre les permis d'exploration. Pourquoi ? C'est parce qu'on sait que si on attend le débat au moment de l'exploitation simplement, des risques d'exploitation, ça sera trop tard. C'est-à-dire que toute la phase de fracturation hydraulique, de creusement des puits, d'envoi des produits chimiques, ça fait partie de l'exploration et pas simplement de l'exploration, de l'exploitation. L'exploitation démarre à partir du moment où c'est rentable. Donc tout le travail en amont, qui est le travail dangereux, aura déjà eu lieu. Aujourd'hui, les conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'une fois de plus, les compagnies pétrolières et gazières nous disent on a toujours besoin de plus de gaz, il faut en consommer encore plus. Et donc, grâce à ces réserves hypothétiques, eh bien, on va gagner 15 ou 20 ans. Ça veut dire qu'on fait cela, une fois de plus, sans avoir un débat sur l'énergie. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles ressources d'énergie fossiles? Est-ce que le débat, au contraire, sur l'énergie ne doit pas poser le problème de la nécessité d'arrêter le gaspillage? Grosso modo, il y a 30% aujourd'hui de l'énergie qui est gaspillée. Et la question aussi du CO2, parce qu'on voit que cette technique de production d'énergie est une technique aussi qui est très polluante. Quand on prend le cycle de vie de ce procédé industriel, eh bien on se rend compte que son émission de CO2 équivaut quasiment avec la production de charbon. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, très clairement, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'abrogation des permis. Parce que si on n'abroge pas les permis, le processus continue. Aujourd'hui, on nous parle d'un moratoire, mais ce moratoire, en fait, ne fait que retarder de 3 mois les permis, puisque la ministre a déjà annoncé que ces permis seraient prolongés du temps de l'étude. Bon, alors, ou le gouvernement va le comprendre de lui-même, et dans ces cas-là, ils abrogent. Sinon, il y a les recours juridiques. Et donc tous les territoires se lancent dans des recours juridiques. Si cela ne suffit pas, il y a la mobilisation sur le terrain. Et comme je le vois, aujourd'hui, on a une mobilisation comme on n'a jamais eu sur l'ensemble des territoires, puisqu'on a à la fois l'ensemble des citoyens qui se mobilisent. On a dépassé les 50 000 signataires de pétitions contre la prospection. Tous les jours, il y a une nouvelle mairie qui prend des arrêtés contre la prospection. Les conseils généraux, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, comme en Aveyron, les conseils régionaux des 3 régions concernées, les 3 premières régions concernées, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ont pris position. Bref, aujourd'hui, on voit se développer un véritable front du refus. Et politiquement, je ne vois pas comment le gouvernement ne peut pas reculer là-dessus. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est l'abrogation. Sinon, de toute façon, ils ne pourront jamais venir sur le terrain.
Fabrice Nicolino, pour finir, même si c'est, je vais ouvrir un chapitre qui mériterait une autre émission et de long développement, mais quand même en quelques mots, quelles sont pour vous les alternatives en matière d'énergie?
Ah, mais ça, c'est passionnant. Vous avez raison. Ça serait bien de faire une autre émission, même si je suis pas là, parce que c'est passionnant. Bon, la première des choses sur laquelle il ne se passera rien, je dis bien rien, c'est qu'il faut diminuer considérablement la consommation énergétique par habitant. Considérablement.
Là, vous parlez pour les pays riches.
Bien sûr. Là, parle pour la France. Il faut mener un débat national de longue durée en France. Et la première des choses, c'est de diminuer massivement, probablement diviser par 3 ou 4 notre consommation d'énergie par habitant. Et c'est possible sur le plan technologique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ce n'est pas une fumisterie, ce n'est pas une vision écolo. C'est possible sur le plan technologique. Parce qu'il existe des moyens, il existe par exemple des machines qui ne sont pas des prototypes, qui marchent, des frigos, des machines à laver, des engins comme ça, qui consomment infiniment moins d'énergie que ceux qu'on nous oblige à acheter dans les supermarchés. Mais évidemment, pour des raisons que vos auditeurs connaissent par cœur, ça ne se fait pas parce qu'il y a des intérêts industriels en jeu. Ça, c'est la première des choses, c'est réduire massivement la consommation énergétique. Ça veut dire revoir aussi les process industriels, c'est-à-dire obliger l'industrie, mais là, c'est un combat de titans, ça veut dire refonder la société sur d'autres bases, c'est obliger les industriels à modifier leurs process industriels de façon à ce qu'on consomme infiniment moins d'énergie pour produire la même chose. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est bien entendu revoir nos modes de vie. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est évident. On ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Tout le monde semble d'accord. C'est faux, bien sûr. C'est un consensus comme il y en a tant. C'est un consensus basé sur le mensonge et l'hypocrisie. Mais on est officiellement tous d'accord pour dire qu'il faut diviser par 4, peut-être par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire revoir nos façons de vivre, nos façons de se déplacer, nos conditions d'existence d'une façon générale. Il y a le dernier point, c'est le développement massif, massif, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec les mesurettes qui ont été prises au Grenelle de l'environnement, des énergies renouvelables. Renoncer progressivement aux énergies fossiles, celles qui émettent des gaz à effet de serre, c'est-à-dire le pétrole et le gaz et le charbon, il faut aller vers une... Tout le monde le dit, mais il faut le faire maintenant, il faut aller vers une économie qui utilisera de moins en moins de carbone et éventuellement plus du tout à l'arrivée. C'est ça les objectifs, mais juste un point précis et concret pour vos auditeurs. Il existe par exemple, tout le monde s'en contrefou, mais c'est une honte complète. Il existe aujourd'hui, ça s'appelle la maison passive. Il y a un site sur le net, lamaisonpassive.fr, je crois. Une maison passive, c'est quoi? Ce sont des maisons qui existent dans des pays relativement froids, en Suisse, en Autriche, il y en a quelques-unes en France. Ce sont des maisons qui sont construites d'une manière hyper intelligente et qui se passent de chauffage. Autrement dit, si la décision politique s'orientait dans cette direction, on pourrait parfaitement décider un plan massif dans le domaine du logement, ce qui donnerait du boulot à, sans doute à des centaines de milliers de gens, voire à des millions de personnes dans un pays où le chômage est massif. Voilà ce qui serait formidable, un plan de reconversion énergétique pour toute la France, qui donnerait un exemple au reste de l'Europe et au reste du monde. La France qui s'enorgueillit, Dieu sait, de son passé héroïque, révolutionnaire, d'être la patrie des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ben elle ferait bien de s'illustrer dans le domaine écologique, dans ce domaine qui est si décisif pour l'avenir de l'humanité, et elle pourrait desserrer les cordons de sa bourse. Seulement, évidemment, ça ne sera pas avec le gouvernement actuel et ça ne sera évidemment pas avec Nicolas Sarkozy, ça va de soi.
Merci à tous, merci à Fabrice Nicolino. N'oublions pas tout de même qu'un tiers de l'humanité utilise encore exclusivement le bois et le charbon de bois pour se nourrir, se chauffer et travailler. Merci également à Corinne Lepage, à José Bové, aux habitants de Villeneuve-de-Berg. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous trouverez toutes les informations, cette émission et des commentaires possibles également sur là-bas.org, là-bas.org. Même jeu à la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Guillaume Roux, Koye Nguyen et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. C'était un reportage d'Inès Léraud. Marina Touillès, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Écoutez. Et pourtant, ce n'est qu'une infime partie de tous les millions d'euros qu'Euromillions met en jeu vendredi. Près de 43 millions d'euros. 43 millions. J'adore ce bruit.
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ce soir sur Arte.
La Corse. Un préfet. Un assassinat. Des intérêts économiques. La raison d'État. Dans Main basse sur une île, un ex-commissaire interprété par François Berléand tente de démêler les fils d'une histoire où la vérité se révélera explosive.
Ce soir à 20h40 sur Arte, Main basse sur une île, un film d'Antoine Santana avec François Berléand. C'est sur Arte.
16h30 sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Kadhafi doit partir, dit cet après-midi Nicolas Sarkozy, alors que la température est montée ces dernières heures à Tripoli. Selon des témoins, les forces de sécurité ont ouvert le feu à l'aveugle sur des manifestants qui n'ont plus peur de défiler dans la capitale libyenne. Difficile d'établir un bilan quant au nombre de victimes, mais il y en aurait plusieurs. Pour Nicolas Sarkozy, actuellement en déplacement à Ankara, la France considère, je cite, avec extraordinairement de prudence et de réserve, une option militaire pour déloger le dirigeant libyen. Déclaration qui intervient alors que l'OTAN se réunit aujourd'hui à Bruxelles, au même titre que l'ONU à New York. Notez qu'on apprend aujourd'hui que deux ONG n'ont pas attendu la chute éventuelle de Kadhafi pour déposer une plainte visant le patrimoine que détiendrait la famille de ce dernier en France. Citant différentes sources, Sherpa et TI France, ces deux ONG affirment que la fortune de la famille Kadhafi se chiffrerait en milliards d'euros répartis dans plusieurs pays. Loin de la Libye, les partisans d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire doivent se sentir pousser des ailes en voyant les différents soulèvements qui s'opèrent dans le monde arabe. Les forces nouvelles opposées au maintien de Laurent Gbagbo affirment avoir pris le contrôle d'une ville dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une ville détenue jusqu'alors par les fidèles du président sortant, Laurent Gbagbo, qui veut entraver la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. L'un de ses bras droits, Charles Blégoudé, a appelé cet après-midi les jeunes douane du pays a empêché la circulation des casques bleus sur le territoire ivoirien. Aucune victime a signalé finalement au Mexique après le séisme qui a secoué en début d'après-midi la province de Veracruz à l'est de Mexico. La secousse d'une magnitude de 5,7 n'aurait pas non plus fait le moindre dégât. En France, les représentants de la justice seront dans la rue le 29 mars prochain. Un appel à manifester a été lancé aujourd'hui par plusieurs syndicats, dont celui de la magistrature, pour obtenir plus de moyens dans les tribunaux. Dior se sépare de John Galliano temporairement. Au moins, le célèbre couturier britannique a été suspendu de ses fonctions chez Dior aujourd'hui. Après avoir été interpellé hier soir à Paris, John Galliano aurait eu une altercation avec un couple à la terrasse d'un café du 3e arrondissement de la capitale qui l'accuse d'avoir tenu des propos antisémites. La maison Dior a du coup décidé d'écarter son créateur vedette dans l'attente des résultats de l'enquête. Le président de la Fédération française de football, lui, Fernand Duchossois, annonce aujourd'hui la désignation au poste de directeur technique national de François Blanquart. Ce dernier assurait cette fonction par intérim depuis le mois d'octobre. Il est désormais titulaire à part entière du poste qu'occupait avant lui Gérard Rouillet, parti entraîner Aston Villa.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Au sommaire cette semaine, un brûlot littéraire sur l'écologie et le développement durable. Selon Yegor Gran, nous sommes parasités par des écolos qui nous donnent mauvaise conscience. Un livre qui agite nos libraires. Nous parlerons de Serge Gainsbourg avec Laurent Ballandras à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Et puis nous irons au Chili avec l'écrivain montréalais Mauricio Segura.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h.
France Inter présente Requiem 3 de Vincent Macaigne au Théâtre des Bouffes du Nord, du 1er au 12 mars. Deux frères, une couronne ou l'histoire de nos espoirs piétinés, de nos colères intimes et collectives. Retrouvez Requiem 3 dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h passé de 4 minutes, vous écoutez France Inter et la suite c'est avec vous Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Merci Maxime. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme annoncé hier, j'ai le très grand plaisir de recevoir Jordi Savall. Bonjour Jordi.
Bonjour.
Le maître de musique, tous azimuts, évidemment instrumentiste, polyinstrumentiste, il joue de plein de violes différentes, de vielles, d'instruments archers, et puis il est chef d'orchestre bien sûr, et j'ai envie de dire historien de la musique aussi, enfin un homme complet. Voilà, et Jordi, vous êtes toujours en mouvement, parce que heureusement vous allez venir donner des concerts bientôt à Paris, le 28 mai par exemple, je vois la Cité de la Musique, le 29 à Valence, Opéra de Toulouse le 30, le 2 juin, Maglone, Besançon le 8 juin, enfin c'est quelque chose d'incroyable, vous n'arrêtez jamais. Et pourtant vous êtes si calme, alors expliquez-moi quel est votre secret.
Mais la musique apporte la paix, toujours.
Oui, mais seulement vous prenez le train, je suppose, juste après ça, vous venez de prendre l'avion, enfin c'est sans arrêt en mouvement.
Oui, mais je me relaxe dans l'avion.
Oui,
non, je pense que c'est simplement, on est heureux en faisant quelque chose qu'on aime beaucoup, et qui nous donne la possibilité d'être aussi en harmonie avec les gens. Donc, on est à côté des génies de la musique, des musiques très belles, qui vous apportent du bonheur. On a la chance de pouvoir le transmettre au public, qui vous transmet aussi une grande énergie. Donc, tout ça, ça donne une belle manière aussi de vivre.
C'est une harmonie.
Absolument, c'est ça l'essentiel.
On va écouter le Jordi Savall qu'on a connu au tout début, le virtuose de la viole de gambe. J'avais un ami qui m'a dit, il faut absolument que tu entendes ce type, c'est extraordinaire, c'est le Rostropovitch de la viole de gambe. Ben, on va entendre la preuve justement dans le tourbillon tiré d'une suite avec deux T. L'orthographe a changé. D'ailleurs, on peut parler dans cette émission des changements d'appréciation, de l'interprétation aussi, pas seulement l'orthographe, mais la musique aussi. Suite d'un goût étranger, ça date de 1717 et c'est de Marin Marais. « Le tourbillon de Marin Marais, tiré de la suite d'Un goût étranger. Jordi Savall, ici présent, qui est à la basse de viol à 7 cordes. Ton Kopman au clavecin, Hopkinson Smith à la guitare baroque. Parce que la viole de gambe, Jordi Savall, est considérée comme un instrument plutôt aristocratique, plutôt un instrument charmeur, qui parle d'amour, qui chante l'amour. Et puis là, il y a quand même la virtuosité. Il y avait quand même des violistes qui voulaient se faire entendre et prouver qu'ils avaient aussi des moyens.
Absolument. Marin Marais était un des grands virtuose. Et contrairement à ce qu'on peut comprendre quelquefois dans les films Tous les matins du monde, c'était le plus grand maître. Et quelqu'un avait demandé à Sainte Colombe si c'était vrai qu'il y avait des élèves qui pouvaient dépasser leur maître, en disant Marin Marais avait été plus loin que Sainte Colombe. Et Sainte Colombe a dit oui, mais il n'y aura personne qui va être mieux que Marin Marais.
Et voilà, on s'en rappelle, c'était Depardieu, père et fils, hein, dans Tous les matins
donc,
du monde.
Donc, bien sûr, c'était des gens qui jouaient toute leur vie l'instrument, leur musique. Ils arrivaient à un niveau de perfection.